Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers pour un nouveau pédalo. Et je vous propose aujourd'hui un programme un peu particulier. Je vous propose de découvrir un nouveau programme que nous n'avons pas encore diffusé. On aurait dû normalement le diffuser dans le cadre du Mercato, hein, où on fait un échange de programmes avec les autres Radio Campus de France normalement chaque été. Mais cet été, des problèmes matériels vont nous empêcher de programmer ces différents programmes correctement. Ce qui me laisse quand même l'occasion durant les quelques semaines qui nous restent de pouvoir vous en diffuser, et je vous propose donc à l'écoute un podcast qui part à la rencontre des espaces sonores réalisé par Émilie Waddell qui nous vient de Radio Campus France, qui est formatrice en podcast, journaliste radio et technicienne son. Et dans ce premier épisode, elle a interrogé Tullio Risato qui est musicien, ingénieur du son et cofondateur de Guéné Audio, qui revient simplement sur les caractéristiques du son, des compositions successives de nos trois oreilles, ce genre de choses. Et je vous propose sans plus tarder qu'on écoute ça tout de suite. Très bonnes émissions à toutes et à tous.
À l'écoute, c'est l'émission qui part à la rencontre des espaces sonores. Tous les mardis à midi sur Campus Grenoble 90.8, retrouvez un ou une artiste, un ou une chercheuse autour d'une thématique sonore inédite.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission à l'écoute sur Campus Grenoble 90.8. Ça fait longtemps que je mène une réflexion sur une émission autour du field recording. Pour moi, ce field recording, c'est un art. Celui d'arriver à se concentrer sur les sons qui nous entourent en les enregistrant, alors que ce soit les sons en pleine nature, en ville ou n'importe où ailleurs. Mais c'est pas que prendre des sons qui nous font plaisir, qui nous font rentrer en résonance, c'est aussi prendre les sons désagréables. On a tous des résistances plus ou moins fortes. Donc aujourd'hui, on est ensemble, je vous propose de fermer les yeux et d'ouvrir grand vos oreilles, de vous installer confortablement. Alors moi, je m'appelle Émilie et on se retrouvera toutes les semaines pour discuter du son et pour cette première saison, surtout du paysage sonore, donc en lien avec ce field recording. Aujourd'hui, on retrouve Tullio Risato, cofondateur de Guéné Audio. Il travaille aussi à l'Opéra de Lyon et il enseigne au Conservatoire de Grenoble où je suis étudiante, et c'est donc dans ces circonstances que je l'ai rencontré. Avec Tullio, on va comprendre ce qu'est le son et ses propriétés. Il ne me reste plus qu'à vous dire que vous pouvez retrouver tous les podcasts de ces émissions sur skadienco.com et sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi, j'adore parler avec vous et dites-moi ce que vous avez aimé. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bonjour Tullio et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Émilie.
Tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, tu es musicien, ingénieur du son, cofondateur de Guéné Audio. Tu travailles aussi au Conservatoire de Grenoble, à l'Opéra de Lyon. Qu'est-ce que tu fais dans tous ces métiers? En quoi ça consiste finalement?
Alors c'est sûr qu'on parle d'ingénieur du son, en fait, il y a plein de métiers dans les métiers du son. Et moi, je fais différentes façons, j'ai différentes façons de pratiquer ce métier. Donc une partie où je suis effectivement ingénieur du son en captation ou en production pour la musique classique, donc à l'Opéra de Lyon ou sur des festivals comme Verbier ou autre. Donc là où c'est prise de son, mixage pour l'image, ou c'est on va faire des effets, par exemple pour la mise en scène d'un opéra, on va lancer des effets sonores, on va lancer des effets sur la musique avec la partition. Alors, il y a ce côté musical et production. À côté de ça, il y a un deuxième aspect qui est l'enseignement, comme tu en parlais, avec le Conservatoire de musique de Grenoble, où il y a une petite formation au métier du son au sein du conservatoire. Et enfin, je suis aussi ingénieur du son mixeur pour le documentaire, donc captation de prise de son, donc prise de son documentaire sur le terrain, beaucoup en montagne. On est un peu spécialisé avec Laurent Mollard, mon associé, dans la prise de son en ski, en escalade, en cascade de glace, un peu tous les trucs un petit peu en altitude qui nous plaisent bien. Et bien enfin en mixage. Donc après, une fois qu'on a fait le documentaire, éventuellement on mixe le programme.
On remet tout.
Voilà un petit peu en résumé.
Mmh. Très bien, merci beaucoup.
Mais il y a plein d'autres métiers. Hein. Le métier du son, c'est très très varié.
Alors, parle-nous du son et qu'est-ce que c'est ? Comment il se propage finalement ce son ?
Alors, le son, c'est une perturbation dans un milieu matériel. C'est-à-dire qu'en fait, le principe du son, c'est une onde, une vibration, qui va se propager de molécule en molécule, qui va faire vibrer une molécule sur elle-même. Elle ne se déplace pas, elle vibre sur elle-même, et elle va transmettre cette vibration aux molécules d'à côté. C'est-à-dire qu'il faut un milieu, donc ça peut être liquide, solide, gazeux, mais dans l'espace, par exemple, il n'y a pas de matière, donc il n'y a pas de son. Donc Star Wars nous ment depuis des décennies en faisant croire qu'il y a des énormes explosions quand l'étoile noire se détruit, ce qui est faux. Bien comprendre que c'est une vibration qui se déplace et non pas la masse qui se déplace. La masse qui se déplace, ça va être par exemple un courant d'eau ou un courant d'air. Là, le son, l'air reste globalement immobile. Et l'onde se propage dans cet air-là. Après, il peut y avoir un son qui se propage dans une masse d'air mobile. Donc, quand il y a du vent, par exemple, on va mieux entendre le son lorsqu'on est sous le vent que lorsqu'on est au vent. Parce que la masse d'air se déplaçant dans une direction, si le son va dans l'autre, elle va mettre plus de temps, elle va plus s'atténuer, et donc on entendra moins de son. C'est pour ça que si vous allez à la chasse, il vaut mieux être sous le vent pour ne pas se faire entendre du gibier. Je ne suis pas chasseur. Après, que dire du son ? Ses caractéristiques principales, c'est le niveau, fort faible, la hauteur, aiguë, grave, donc la fréquence, le spectre, c'est-à-dire un son simple, une sinusoïde, complexe. Donc, les sons de la vie sont généralement complexes parce qu'ils ont ça va être en fait un empilement de fréquences, un empilement de sinusoïdes. On peut décomposer en somme de sinusoïdes un son, en fait. On appelle ça les décompositions en série de Fourier. Et enfin, une dernière caractéristique, c'est la durée du son. En musique, on va parler de blanche, croche, noire. Et puis, nous, en physique, plutôt de secondes ou millisecondes. Donc, voici les principales caractéristiques du son.
Est-ce qu'un son, par exemple, le son de nos voix ou le son d'un instrument, c'est une seule fréquence ? En hertz, ou est-ce que c'est vraiment tout un tas de petits sons qui s'agrègent ?
Alors, effectivement, les sons musicaux, généralement, sont des sons complexes. C'est-à-dire qu'on joue rarement qu'avec des sinusoïdes, ce qui n'est pas très agréable et surtout complètement artificiel, parce que les sons sont généralement ce qu'on appelle complexes. Alors, ce qui va faire le son musical, c'est la hauteur. Enfin, pas que, mais en tout cas, dans grande partie, les sons musicaux sont à hauteur dite déterminée. C'est-à-dire qu'on va avoir soit une fréquence fondamentale avec des partiels qui n'ont pas de lien direct avec cette fréquence fondamentale, mais qui va être, cette fréquence étant suffisamment forte pour avoir la hauteur d'un son. Une timbale, par exemple, on accorde la timbale, mais elle n'a pas forcément d'harmonique. Et justement, les sons, on va dire, plus périodiques avec des harmoniques, ce sont tous les autres, une grande partie des sons musicaux, on va avoir cette fréquence fondamentale et comme des échos, c'est-à-dire des sommes de fréquences plus aiguës qui sont à une fréquence paire ou impair de la fréquence fondamentale. C'est-à-dire qu'on va avoir, pour un son 440 Hz, on va avoir l'harmonique de rang 1 qui va être à 880, l'harmonique de rang 2 qui va être à 1760, etc. etc. Donc en fait, lorsqu'on entend un son de piano, on a en fait une multitude de sons qui s'agrègent, qui sont agrégés par l'oreille en un seul son, qui nous donne le timbre du piano. Et c'est ça qui va faire aussi la différence de timbre, notamment, c'est la proportion de ces harmoniques par rapport au son fondamental. Par exemple, la clarinette va avoir plus de sons harmoniques impairs. Donc c'est pour ça qu'on va dire, tiens, c'est un son de clarinette, alors que la flûte, ça sera plus égal dans les harmoniques paires et impaires. Donc ça va être une des qualités du timbre grâce à ces harmoniques. Donc effectivement, voilà, le son est très complexe et donc nous, on entend une partie de cette complexité, mais il faut savoir qu'en fait, l'humain est pas hyper performant en termes de perception et qu'il y a certains animaux, beaucoup d'animaux qui entendent des sons beaucoup plus graves et d'autres des sons beaucoup plus aigus.
Super.
Merci. Donc voilà un petit peu pour la qualité sonore.
Est-ce que tu peux nous parler maintenant de l'oreille ? Parce que là, on parle du son, de comment il se propage, mais comment est-ce qu'on entend ce son qui se propage ?
Alors, oui, je vais vous parler de l'oreille avec un petit schéma à l'appui. Alors, l'oreille, c'est donc l'organisme qui va bien sûr percevoir le son. Elle est constituée de trois parties, globalement, qui vont avoir des rôles spécifiques. L'oreille externe, avec le pavillon, le conduit auditif et le tympan qui fait la limite avec l'oreille moyenne. La chaîne des osselets, marteau, étrier et enclume, qui vont transmettre l'onde dans l'espèce d'escargot que l'on voit sur la droite du schéma et qui est la cochlée, où on va coder l'information. Ces trois oreilles, finalement, ont des rôles assez spécifiques. L'oreille externe, pour commencer par elle, elle a déjà un rôle de pavillon, c'est-à-dire qu'elle va amplifier le son avec le conduit auditif également et va faire comme un cornet acoustique. Comme vous voyez Tintin avec le professeur Tournesol, il a son cornet pour entendre le son dans la direction. Et de la même façon, lorsqu'on essaye de nous capter de façon la plus efficace un son, on va avoir tendance à diriger l'oreille vers ce son. Alors que si on va avoir la meilleure précision dans la localisation, on va plutôt mettre les deux oreilles face au son, de façon à avoir le plus de dissociation angulaire et puis de définition du son. Donc, cornet acoustique, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que le pavillon a une forme unique pour chacun. Et le son, quand il va heurter pavillon, il va y avoir une multitude de petites réflexions qui vont créer des filtrages en peigne et qui vont altérer le son d'une certaine manière. Le cerveau, lui, va être capable de dire un son qui arrive dans cette direction arrive dans le pavillon et altéré par telle fréquence, donc il arrive de là. C'est-à-dire que le cerveau est capable d'analyser le son, son filtrage, et de dire, ah ben, puisqu'il est filtré comme ça, il vient de tel endroit. Et ça, on appelle ça les HRTF, les Head-Related Transfer Function, la fonction de transfert relative de la tête. Et ces HRTF donnent en fait des informations de localisation en 3D dans l'espace. C'est notre façon de percevoir le son, avec aussi il y a des différences d'intensité et de temps entre les deux oreilles. Mais voilà, ça, c'est vraiment la perception sonore. Enfin, l'oreille externe a un rôle de protection un petit peu contre le vent, parce que mine de rien, le pavillon et le conduit permettent d'éviter que le son arrive en force sur le tympan lorsqu'il y a du vent. C'est la différence dont je vous parlais tout à l'heure entre une vibration sonore qui se déplace et un flux qui se déplace. Un flux qui se déplace, c'est comme si on avait une très basse fréquence, très forte. Et c'est ça qui fait dans les micros lorsqu'on on a oublié de mettre une petite mousse sur le microphone, ou lorsqu'on parle trop fort et qu'on fait des mouvements d'air avec la bouche, on appelle ça les plops en rock ou autre, et qui vont du coup créer un mouvement d'air qui s'assimile à une basse fréquence très forte et qui se fait saturer la membrane, le convertisseur, et tout ça. L'oreille moyenne, elle a pour rôle principal d'adapter l'impédance, parce que le son circule dans le milieu aérien, mais à l'intérieur de la cochlée, donc à l'intérieur de l'oreille interne, c'est de l'endolymphe, c'est un liquide. Or, lorsque le son passe d'un milieu aérien à un milieu liquide, il y a une partie qui est réfléchie. C'est ce qui se passe lorsque, par exemple, vous êtes à la plage, vous écoutez toutes les gens qui sont allongés, qui discutent sur le bord de la plage, et puis tout d'un coup, vous mettez la tête sous l'eau. Et là, vous perdez une grande partie des conversations parce que le son ricoche sur l'eau et réfléchit et n'est pas transmis. Une grande partie du signal n'est pas transmis. Et donc, ces trois osselets vont avoir pour rôle de transmettre la vibration, et le bras de levier que ces trois osselets forment vont amplifier la vibration sonore captée par le tympan de façon à ce que la perte due au changement d'état, au changement de support, soit compensé. La deuxième chose, c'est que vous voyez la trompe d'Eustache. C'est un petit orifice qui rejoint l'oreille moyenne avec la cavité otorhino-laryngologique. Ce qui se passe, c'est que en fait, on est capable, nous, de percevoir des pressions jusqu'à 20 pascal, à peu près. Ça, on est à peu près au seuil de la douleur. Or, l'atmosphère a une pression globale de 1000 hectopascal. Donc vous voyez qu'on a une énorme pression, mais à laquelle nous sommes habitués, bien entendu. Le problème, c'est que lorsqu'il va y avoir un changement de pression, donc on va passer en dépression ou en haute pression parce qu'il va faire mauvais ou il va faire beau, on a des changements qui peuvent varier de 100 hectopascal, alors que nous, on est capable d'avoir une différence seulement de quelques pascal. Donc, s'il n'y avait pas cette trompe de Stache, on aurait une différence de pression entre l'oreille externe et l'oreille moyenne qui serait phénoménale. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on a l'appareil otorino bouché, lorsqu'on a le rhume, où on est malade. Eh bien, cette trompe de Stache est bouchée. Et du coup, la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur fait que le tympan se bombe, et du coup, on a un son qui est tout cotonneux, on perd beaucoup de fréquences aiguës, voire même, on peut avoir des très grandes douleurs. Lorsqu'on monte en altitude très vite, ça fait aussi le même effet, et si on a le nez bouché, on peut avoir des douleurs terribles à cause de ça. Donc, cette trompe de Stache va servir à égaliser les pressions statiques. On a aussi un rôle de protection, parce que ces petits osselets, en fait, y a un muscle qui peut rigidifier cette chaîne. Il s'appelle le muscle stapédien, et lorsqu'il y a un son qui est très fort, le muscle stapédien va se contracter et va limiter l'excursion des osselets. Donc, éviter qu'on ait une grosse vague qui soit déclenchée dans la cochlée et qui couche les cellules ciliées et qui détruise les cellules ciliées, et après qui détruise l'audition. La seule limitation de ce muscle stapédien, c'est qu'il a un temps de réponse de plusieurs dizaines de millisecondes et que des sons très brutaux comme une explosion ou voire même un coup de caisse claire très fort, finalement, il y a une partie du son qui a le temps de passer avant que le muscle stapédien se contracte, et c'est comme ça qu'on peut avoir des pertes d'audition quand il y a des accidents sonores. Enfin, l'escargot, donc la cochlée, là-dedans on a des cellules ciliées, donc c'est des petites cellules qui vont être couchées par la vague provoquée par le son, et en se couchant, elles vont libérer des neurotransmetteurs qui vont créer au niveau des fibres nerveuses des potentiels d'action et qui vont aller jusqu'au cerveau. Et là, c'est quelque chose qui est absolument incroyable, c'est que en fait, le cerveau, il code en numérique. Le cerveau, finalement, fonctionne en binaire par rapport à la perception auditive. Il va dire, tiens, j'ai un son à tel endroit, sur telle cellule ciliée, donc ça correspond à 300 Hz, par exemple. Et en fait, il va dire, j'ai un son parce que j'ai un potentiel d'action ou je n'ai pas de son. Donc, j'ai un 1 ou un 0. J'ai une information ou j'en ai pas. Et à partir de ces 3500 cellules ciliées internes qui vont envoyer des 1 ou des 0 au cerveau, le cerveau va reconstituer un son complexe avec toute la finesse que l'on connaît. À savoir qu'effectivement, ce sont ces cellules ciliées qui, si elles sont soumises à une vague trop forte, vont finir par se briser et on va perdre des fréquences au fur et à mesure de la vie et on va perdre de l'acuité auditive. Voilà un petit peu comment fonctionne tout ça. Ce qui est assez incroyable quand même, il faut le souligner, c'est qu'on est capable d'entendre un son de 10-12 watts par mètre carré jusqu'à 2 watts par mètre carré. C'est-à-dire qu'on est capable d'entendre un son 1000 milliards de fois plus fort que le seuil de l'audition. Vous imaginez 1000 milliards de fois plus fort ou plus faible. C'est-à-dire qu'entre le seuil de l'audition et le seuil de douleur, il y a ce rapport de 1000 milliards, donc c'est assez incroyable quand même de ce qui est capable d'adapter l'oreille.
Est-ce qu'un micro pour enregistrer ces sons fonctionne de la même manière qu'une oreille?
Alors, on s'est effectivement beaucoup inspiré de le fonctionnement de l'oreille pour l'enregistrement, et notamment le micro finalement va retrouver un petit peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que notre membrane va s'assimiler au tympan, donc on a la membrane qui va bouger de la même façon que le tympan. Après, pour un micro dynamique, par exemple, on va avoir la bobine mobile qui va faire office d'interface avec le système de captation, comme les osselets. Et puis après, c'est là où ça va changer, c'est que finalement, nous, en son, ça fait que quelques dizaines d'années qu'on code en numérique, alors que finalement, l'oreille, elle, a toujours codé en numérique, tant qu'on le sache. Mais il y a effectivement des fortes similitudes. Après, on a dû adapter un petit peu les technologies parce que finalement, l'enregistrement n'est qu'un piètre média par rapport à l'oreille. Pour capter, on est encore loin des performances de l'oreille.
Justement, ça nous amène à cette question. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que quand on enregistre, on n'entend jamais exactement la même chose que ce qu'on écoute de manière naturelle et que le son est déformé finalement ?
Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, c'est assez récent qu'on est capable d'avoir les mêmes performances que l'oreille en termes de réponse en fréquence et de dynamique. Ça, c'est quand même... Jusqu'à il y a très peu de temps, on était incapable d'avoir, de ne pas avoir de bruit de fond, de souffle, ce genre de choses. Donc, il y a cet aspect purement technologique en premier. Deuxièmement, il y a le fait qu'on restitue sur deux enceintes, déjà, ou trois, ou cinq. Mais dans la réalité, nous, on perçoit en 3D tout le temps. Parce que même si le son est frontal, c'est-à-dire qu'il vient d'une scène ou d'un concert, on a toutes les réflexions tout autour qui nous parviennent tout le temps. Même quand je parle là dans une pièce ou si je suis dehors en train de marcher dans l'herbe, j'ai des réflexions du sol, des réflexions sur les arbres. Donc on est habitué à avoir tout le temps une immersion qu'on n'en a pas forcément avec les enregistrements. D'ailleurs, si vous allez dans une salle anéchoïque, c'est-à-dire une salle sans aucune réverbération avec les grands pains de mousse là de partout qui absorbent totalement les réflexions, c'est extrêmement perturbant pour quelqu'un de pas avoir ce retour du son. Ce qui fait que pour que ça fonctionne, pour qu'on se fasse tromper par un enregistrement, ce qui est quand même un fantasme d'ingénieur du son, jusqu'à maintenant on n'a pas vraiment réussi à reproduire, il faudrait que le son soit 3D. Donc soit des enceintes partout, un petit peu compliqué, soit éventuellement l'utilisation de systèmes binauraux, transauraux, à ceci près que comme les HRTF, je l'ai dit tout à l'heure, sont uniques pour toutes les personnes, il faudrait avoir le traitement approprié pour chaque auditeur. Mais même si on avait ça, et c'est ce à quoi tend la réalité virtuelle, hein, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir un son immersif avec une vidéo qui va être traquée, il y a quand même un problème que l'on a, c'est l'écoute intentionnelle. Cette écoute intentionnelle, c'est une capacité phénoménale du cerveau qui va permettre de zoomer sur une source. C'est-à-dire que si j'entends un faucon pèlerin là dehors ou un clarinettiste dans la fosse d'orchestre, si je le regarde, je vais zoomer de façon audio en jouant sur des effets de phase entre les deux oreilles. Mon cerveau va extraire ce son-là de la scène et du coup se concentrer sur ce son-là. Ce n'est pas l'idée qu'il entend toujours les autres, mais il entend mieux celui-ci. Donc ça, en psychoacoustique, c'est ce qu'on appelle donc cette écoute intentionnelle que l'on perd à partir du moment où on va mettre des micros parce qu'on va perdre toutes les relations de phase, toutes les relations subtiles entre les deux oreilles à travers le média. On va simplifier terriblement le signal et on ne va plus être capable derrière de faire les analyses de qu'on est capable de faire avec le cerveau. De la même façon, lorsque vous êtes dans une salle d'orchestre, un petit peu vers le fond de la salle, que vous écoutez l'orchestre, en fait, là où vous êtes, c'est terriblement réverbéré. Mais comme vous avez cette écoute intentionnelle, vous êtes capable de zoomer sur l'orchestre. Alors que si vous mettiez un couple de microphones à la place de votre fauteuil, là, qu'est-ce que vous entendriez ? Vous entendriez vos voisins qui bougent, vous entendriez beaucoup, beaucoup de réverb et tout au fond, l'orchestre. C'est pour ça, d'ailleurs, que lorsqu'on fait une prise de son, on va mettre les coupes de micro non pas à l'endroit où serait le public, mais beaucoup, beaucoup plus proche, au-dessus du chef ou quelque chose comme ça, pour compenser ce manque d'écoute intentionnelle. Et enfin, il y a aussi une dernière chose, au-delà de cette immersion qu'on arrive encore difficilement à reproduire, c'est on a des micro-mouvements perpétuels qui nous permettent de localiser des petits micro-mouvements de la tête. Et lorsque l'enregistrement est fixe, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc, on a cette perte de repères qui nous ferait croire que c'est naturel et qu'on pourrait retrouver éventuellement avec le tracking d'une réalité virtuelle. Mais il va encore manquer deux, trois choses, c'est les autres sens. Parce que les autres sens influencent la perception sonore, beaucoup. Donc après, il faut faire de la 4D, de la 5D...
Est-ce que ça veut dire que si on écoute les yeux fermés ou si on écoute les yeux ouverts, on n'entend pas du tout la même chose ?
Effectivement, en fait, c'est même quelque chose que je conseille aux étudiants, c'est des fois d'écouter les yeux fermés parce que la vue va vraiment influencer ce qu'on entend. Donc, écouter les yeux fermés, cette même salle de spectacle dont je parlais tout à l'heure, si maintenant vous fermez les yeux et vous écoutez en fermant les yeux, ben vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'orchestre est hyper réverbéré là où vous êtes. Mais vous n'en étiez pas rendu compte quand les yeux étaient ouverts. Donc, les sens interagissent en fait tous, plus ou moins, mais la vue et l'ouïe interagissent fortement. D'ailleurs, c'est l'ouïe qui va diriger la vue, généralement. C'est parce que j'entends un son dans un endroit que, intuitivement, je vais directement aller regarder ce son-là. C'est ce qui nous permet de survivre depuis des millénaires. Parce que le félin qui était en haut de son arbre, il a fait un bruit, il nous a permis de le regarder et puis de courir très très vite pour passer à manger. Donc voilà, c'est un réflexe de survie et c'est, donc les deux sont très très fortement corrélés.
Super, et ben merci beaucoup d'avoir été avec nous malgré les problématiques d'enregistrement que nous avons eues, puisque nous avons enregistré cet épisode 3 fois tout de même, ce qui n'est pas rien.
J'espère que la 3e sera la bonne.
J'espère aussi.
Et je souhaite à tous de très beaux enregistrements et bon courage pour la fin de ce léger confinement.
Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ?
Alors, donc avec Laurent Mollard, mon associé, nous avons fondé Gainé Audio, qui est une structure de prise de son. On est situé à Lens-en-Vercors et on n'est pas hyper doué pour la communication internet, mais on a néanmoins un petit site qui vaut ce qu'il vaut, mais qui donne un petit peu des infos. Ça s'appelle gainé-audio.com. C'est gainé-audio. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez envie de nous rencontrer. Nous, ça sera avec plaisir.
Super, et ben merci beaucoup, Tullio, et à
merci.
Très vite.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Et bien voilà, c'est la fin du premier épisode de cette émission à l'écoute. J'espère de tout cœur que vous avez apprécié cet entretien. Vous pouvez me retrouver sur le site skadianco.com, skadianco.com. Vous pouvez retrouver sur cette page tous nos projets, mais aussi les podcasts de cette émission à l'écoute. Merci pour votre écoute et à très vite sur Campus Grenoble 90.8.
Assez fait de plans sur la comète, je reviens comme une météorite, j'explose mes théories. Depuis le temps que je te promettais l'ogive, j'essayais de vivre mes rêves quand tu croyais que j'étais au lit. Si tu me connais un minimum, t'as capté que t'es au rime. Je fais ma route en marche, flammatisé par le risque. T'en connais un rayon, alors procure-toi le disque. Liberté dans le viseur, pourquoi tu me parles de bis? Je peux pas rentrer dans les clous, je suis attiré par le vice. Je reste discret, fidèle à mon étiquette. Fais que gratter, je suis dans le coup comme une étiquette. Pourtant personne m'en colle, non. Tant que ma musique fait voyager, percer perso, je m'en cogne. Dans les rues de CLF, ma voix s'élève comme une remise en question. Le temps c'est le maître, l'homme c'est l'élève. Alors parfois faut serrer les dents. Quand ça va pas, quand c'est le cirque comme Zavata, relève la tête et remets les gants. Qu'est-ce que tu vois à l'horizon? Certains parlent d'orage. Quand j'ai trop de rage, vous pensez qu'ils ont raison. Mais je rêve de ciel bleu et de soleil sur nos maisons. Donc je me battrai pour la culture depuis la graine jusqu'à la floraison. Prends de la hauteur, je taille. C'est toujours les mêmes qu'on écoute. J'irai pas jouer les coudes pour que les autres me remarquent. Y'a comme une odeur de crap, mais sur l'honneur j'rappe. Faudrait faire tourner la parole comme dans un open mic. J'vois que trop de potes titubent en désaccord avec ce que vos codes stipulent. Vis sous pression comme une cocotte minute. C'est chum, j'suis pas au top, j'simule. Sur ma feuille j'délivre une autopsie plus. Hey, mon rap, un album photo de ma vie. J'ferme les yeux, l'écriture est automatique. Mon rap, un album photo de ma vie. J'ferme les yeux, l'écriture est automatique. H. Ferme les yeux, mon reflet comme adversaire. J'ai les cartes, coup de poker à chaque verset. Rien n'est figé, j'étais sous la versière. Il fera beau, visage tourné vers le ciel. J'ferme les yeux, mon reflet comme adversaire. J'ai les cartes, coup de poker à chaque verset. Rien n'est figé, j'étais sous la versière. Il fera beau, même si ce monde est tordu comme ma teuf. Dans mon cœur des lésions, l'encre l'école ma teuf. Lendemain de cuite, réveil comme ma teuf. J'ai pas envie de parler, mais je suis bon acteur. Alors avale ta merde, scatophile. Tu mérites une bonne leçon comme un analphabète. Non, j'ai pas que ça à faire, pas possible. Toutes tes cordes vocales et je t'attache avec. Non, j'ai pas assez l'âge de me battre, j'gratte des faces de barre. J'ai amené moi le rap, j'm'occupe du relooking. Là, c'est de voir que la masse s'empare de l'art. J'passe le bas, l'écart, là, trop de relooking. Vous ne faites que vous reluquer. J'entends mon train de vie, toi, ta vision du quai. Il ne faut pas que mon énergie s'estompe. Donc, j'file à l'anglaise pendant que les MC me font lutter. Bien on calme le jeu, rien ne sert de combattre le feu par le feu. Ici on agit et on parle peu. On vise d'autres richesses, range ta carte bleue. Avec Patch et Matisse, on va s'envoler comme des hauts dans Matrix. Marcher sur les murs, retourner des salles. Toujours dans l'action quand les mots sont factices. Sur scène c'est 3 loustiques.
Saxo, beatbox,
concert en acoustique.
3 loustiques,
saxo,
beatbox,
concert en acoustique. Toujours avec le cœur, transforme la haine en bars. Je n'oublierai pas le first, concert au Raymond Bar. Thank you.
De retour sur les ondes de Radio Campus Angers, à l'instant c'était H.E.O. avec le titre Poignée de Punchline. Et si cette émission vous a plu, vous pouvez donc aller retrouver les autres épisodes d'À l'écoute sur le site scatiaenco.com. On remettra les informations sur la page de cette émission. Un grand merci à Emilie Waddell de Radio Campus France. Quant à nous, il est déjà l'heure de nous quitter, mais on se retrouve dès demain pour un nouveau pédalo. Très belle soirée à toutes et à tous.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.